Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage vous propose dans cette nouvelle émission de vous intéresser à une première médicale mondiale réalisée en France, la greffe d'une bronche artificielle sur un patient touché par un cancer du poumon. Une première qui s'est déroulée en octobre 2009, mais dont le chirurgien à l'origine de cette prouesse n'en a fait part que 15 mois après aux médias, en mars 2011, afin d'observer les effets de cette opération à moyen terme. Il s'agit du professeur Emmanuel Martineau, il est notre invité dans cette émission Éclairage, mais il n'est pas seul, il est accompagné du professeur Alain Carpentier, président de l'Académie des sciences, qui a soutenu le professeur Martineau dans ses recherches, et nous verrons comment dans quelques instants. Messieurs, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Professeur Emmanuel Martineau, vous êtes chef du service de chirurgie thoracique et vasculaire à l'hôpital Avicenne de Bobigny, Université Paris 13. Alain Carpentier, j'ajoute, outre vos fonctions de président de l'Académie des sciences, que vous êtes professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie, chirurgien des hôpitaux de Paris. Vous officiez au département de chirurgie médico-vasculaire et de transplantation d'organes à l'hôpital Georges Pompidou et que vous êtes à l'origine des bioprothèses valvulaires cardiaques et à l'origine du cœur artificiel. Première question qui s'adresse à tous les deux, comment vous êtes-vous rencontrés ? Professeur Carpentier, pour commencer.
Je dirige un laboratoire de sciences biochirurgicales que j'ai créé depuis un certain temps, et un beau jour, un jeune et fringant chercheur chirurgien est venu me dire « J'ai un projet, mais personne ne croit en mon projet ». Et mon projet, c'est de trouver une solution pour un problème qui, jusqu'à présent, n'avait jamais trouvé de solution. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a immédiatement intéressé. Et ce problème qui n'avait jamais trouvé de solution était tout à fait, pour moi, inattendu. Parce qu'à l'hôpital européen Georges Pompidou, on greffe des cœurs, on greffe des reins, on greffe des poumons. Et là, on était en train de me dire que le remplacement d'un petit segment de la trachée, segment qui est généralement affecté dans le cancer du poumon, n'avait pas jusqu'à présent trouvé de solution. Alors moi, j'aime les défis, et j'avais en face de moi un jeune, plein d'enthousiasme, qui avait en effet un défi. Alors après, on a expliqué son idée, qui paraissait en effet incongrue, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avait pas trouvé de laboratoire d'accueil.
Alors justement, professeur Martineau, avant de vous tourner vers le professeur Carpentier, vous avez essuyé beaucoup de refus. Quel était le regard autour de vous quand vous vous êtes lancé dans ce défi ?
L'histoire est celle-ci, hein, c'est-à-dire qu'au départ, donc, j'avais un projet. Alors soit le laboratoire voulait m'accueillir, mais il n'y avait pas d'aide, pas de financement, soit le laboratoire était trop sceptique et donc disait « non, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible, etc. » Donc je me suis dit, connaissant tous les travaux du professeur Carpentier à l'époque, eh bien, je me suis dit, je vais aller voir monsieur Carpentier. Alors j'ai essayé de l'approcher par des intermédiaires, et puis finalement je suis arrivé au laboratoire, je lui ai tendu mon projet, et puis bon, il a regardé les yeux. J'ai eu l'impression qu'il était assez passionné par le projet, il m'a dit, c'est bon, on y va. Et puis ben, voilà, ça dure depuis maintenant 13 ans, parce que c'était en 97, même 14 ans. Donc ça fait une longue période.
Est-ce qu'au regard de vos confrères au début, quand vous vous êtes lancé dans ce travail, professeur Martineau, et vous, professeur Carpentier, quand vous avez commencé à travailler sur ces bioprothèses cardiaques, est-ce qu'au début vous êtes passé pour, allez, disons-le, des clowns ? Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si on ne vous prenait pas au sérieux. Est-ce qu'au départ, on n'a pas cru forcément en votre projet ?
Non, je crois que c'est pas ça. C'est pas le mot à utiliser. On a toujours été pris au sérieux. Mais vous pouvez être sérieux et puis travailler sur des sujets auxquels les gens ne croient pas. Et les gens ne croient pas parce que c'est toujours très difficile de croire à des solutions qui sont en dehors des chemins habituels. Pour ce qui me concerne, puisque vous m'avez cité, de fabriquer des valves cardiaques avec des valves prises chez le porc, ça paraissait complètement fou. Pour ce qui concerne le professeur Martineau, de remplacer un segment de bronche avec un morceau d'artère, ça avait l'air complètement fou. Et par conséquent, c'est vrai qu'au départ, on est en situation de confrontation avec les gens qui croient savoir et puis qui, en fait, sont responsables que les choses n'avancent pas. Alors, voilà comment les choses se déroulent.
Alors, vous nous l'avez dit, 14 ans de recherche, vous allez pouvoir peut-être nous expliquer que s'est-il passé au fur et à mesure de ces 14 ans, et puis une rencontre, j'imagine que c'est une rencontre dont il s'agit, puisque vous décidez d'opérer ce patient de 78 ans qui, j'imagine, partage avec vous ce défi et tout ce que ça comporte aussi comme doute. Comment se déroulent ces 14 années, professeur Martineau, jusqu'à ce patient ?
C'est à la fois simple et finalement pas simple, puisque en fait, c'est une succession d'étapes. Au début, c'est vrai qu'on avait très très peu de repères. On avait quand même une bibliographie de 50 années de recherche où de nombreuses équipes avaient essayé de trouver ce substitut idéal à la trachée et aux bronches. Alors, grosso modo, en 5 voies, je ne vais pas détailler, et avec des échecs liés à différentes problématiques. Et en fait, ça a été une succession, c'est-à-dire au début, le fait que la brebis survive à la première nuit était déjà un miracle. Et puis ensuite, qu'elle survive plus longtemps, etc., jusqu'à 3 ans, un deuxième miracle. Ensuite, les constatations qu'on a pu faire d'un point de vue transformation des tissus, en fait, on a vu se régénérer un épithélium. Là aussi, c'était une grande surprise. Et puis alors, je pourrais dire la cerise sur le gâteau, ça a été la régénération du cartilage, c'est-à-dire que l'individu lui-même, finalement, réparait la structure qui remplaçait donc la trachée qui était de l'aorte. En fait, on avait une régénération d'une trachée, parce qu'au début, on a travaillé sur la trachée. Et la dernière étape, ça a été le remplacement de bronches, alors qu'on a fait avec toute une équipe. Il faut citer aussi donc, le docteur Seguin qui nous a rejoint, et puis ensuite le docteur Radou, qui font maintenant partie de notre équipe. Et donc, cette dernière étape sur le remplacement de bronches a confirmé les résultats sur la trachée. On avait l'idée, bien sûr, de proposer des applications cliniques. Donc, on a commencé à écrire un protocole. Il faut savoir que quand on commence à écrire un protocole, il faut à peu près 1 an et demi pour qu'il soit autorisé par toutes les instances françaises. Et on a vu ce patient en consultation qui avait 78 ans, qui avait un cancer très, très important et quelque part qui était condamné. On lui expliquait qu'on pouvait lui faire une pneumonectomie, mais avec des risques très importants. Et il nous a dit non, moi, je ne veux pas d'ablation complète du poumon. Donc, on lui a dit on peut essayer, mais ça va être techniquement très difficile de préserver une partie du poumon en mettant bout à bout les deux bronches. Mais on lui a dit c'est pas complètement exclu qu'il faille utiliser le tissu qu'on propose depuis 10 ans à travers nos travaux de recherche. Et donc, on est parti comme ça. C'est pendant l'opération qu'on a décidé de faire cette opération, puisqu'on a vu que techniquement, on était obligé soit de lui enlever le poumon, il n'était pas d'accord, soit de réaliser cette intervention nouvelle.
Donc, il était au courant qu'il était le premier à subir
cette
opération ?
Comment dire ? Quand on opère un patient comme ça, on ne va pas, comme dans les journaux, où on annonce première mondiale, etc. On l'avait prévenu, et puis surtout, qu'on pouvait utiliser ce substitut. Mais surtout aussi, au préalable, on avait informé l'agence de la biomédecine, où j'étais allé faire une présentation, et on avait fait une demande à titre exceptionnel à l'AFSAPS, qui nous avait donné son accord pour utiliser ce substitut chez ce patient.
Oui, voilà. Puisque j'imagine que les autorisations sont compliquées, longues à obtenir, que tout ça prend du
temps. Tout à fait. Dans le cadre du protocole, ça prend 1 an et demi. Dans le cadre de ce malade, ça a pris 3 semaines, puisqu'on avait quand même toute l'antériorité de recherche qui permettait une autorisation rapide. Et puis, on voyait que ce patient, autrement, était condamné.
Le professeur Carpentier s'était lancé dans les prothèses cardiaques. N'avez-vous pas essayé de faire des prothèses, vous aussi, de votre côté ?
Alors, des bioprothèses, oui, on a eu un étudiant au laboratoire qui a testé cette voie, mais on avait quand même l'antériorité d'autres équipes qui avaient testé ce type de bioprothèses avec des échecs par problème d'incorporation des tissus à ce niveau-là. Ce n'est pas tout à fait la même problématique.
Et avec, j'imagine, des risques de rejet qu'il n'y a pas avec la transplantation de bronches, comme vous avez
pu le faire. Alors, les risques de rejet, c'est surtout quand on fait des allogreffes de trachées, c'est-à-dire qu'on prend des trachées prélevées comme le cœur, le poumon dans le cadre des prélèvements multi-organes, et qu'on le transplante à un individu, puisqu'en fait, on a des réactions immunogènes, surtout face à l'épithélium. Il y a des rejets très aigus. Ça a été très bien documenté. C'est une voie qui est maintenant quasiment abandonnée en matière de trachée.
À qui s'adresse cette opération ? J'imagine que lorsque l'information est sortie, la liste d'attente a dû s'allonger pour tous ces patients qui mettent beaucoup d'espoir lorsqu'ils ont vu dans les médias le résultat de cette opération.
Alors aujourd'hui, on analyse tous les dossiers des patients de manière prospective et en fait, on essaye de raisonner avec cette nouvelle intervention pour tous les malades à qui on proposerait une pneumonectomie, c'est-à-dire c'est des patients qui ont des lésions tumorales très centrales dans le poumon. Hein, il ne s'agit pas de proposer cette intervention à des malades qui ont besoin d'une lobectomie, c'est-à-dire l'ablation que d'un lobe de poumon. C'est vraiment pour des tumeurs centrales pour lesquelles aujourd'hui on propose une pneumonectomie ou, pour être technique, une résection anastomose bronchique.
Donc c'est dans le cadre de cancers très avancés?
Pas forcément, non. Mais de cancers qui sont situés de manière très centrale, pas pour des lésions qui sont dans la périphérie du poumon.
Et qui touchent uniquement les adultes? Ou alors vous avez dans votre liste d'attente également des enfants qui pourraient être confrontés?
Non. Les enfants, pour l'instant, non. Par contre, ça peut être des adultes jeunes, hein, puisqu'on voit de plus en plus de jeunes, même parfois qui sont âgés d'une trentaine d'années, avoir des cancers du poumon.
Mais alors, le fait de faire cette transplantation, est-ce que, du coup, on n'a plus besoin d'utiliser le traitement pour son cancer? Ou est-ce qu'il y a, du coup, et transplantation et poursuite du traitement pour son cancer?
Non, pas du tout, puisque, en l'occurrence, ce patient avait reçu une chimiothérapie néo-adjuvante, c'est-à-dire qu'il avait une chimiothérapie avant l'intervention. Et que, là aussi, c'est important de délivrer un message juste, hein, ce n'est pas un nouveau traitement du cancer du poumon. C'est une intervention qui va diminuer la mortalité. Et puisque la chirurgie est le traitement qui assure la meilleure survie à long terme, qui va permettre d'opérer des malades qu'on n'opérait plus et à qui on faisait une radiochimiothérapie. Mais c'est un malade qui a ensuite eu la surveillance, comme pour tout malade, opéré d'un cancer du poumon.
Je parlais d'une liste d'attente. Combien de personnes peuvent être candidats à cette opération, à peu près?
Le protocole, en fait, vient d'être ouvert la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait opérer le deuxième patient. Il s'avère qu'aujourd'hui, à la consultation, cette annonce, finalement, a généré des consultations très diverses qui n'ont pas forcément à voir avec ce type d'indication. Des malades parfois qui viennent et qui n'ont pas du tout de cancer, qui ont autre chose, un petit peu en impasse thérapeutique. Mais bon, le recrutement va passer par les collègues, puisque parmi les collègues, en particulier les médecins qui s'occupent du poumon, les pneumologues, ils ont tous en mémoire des patients qu'ils avaient confiés aux chirurgiens, qui ont eu une pneumonectomie et qu'ils n'ont jamais revu, du fait de la mortalité de cette intervention.
Et quel est le regard des médecins étrangers? Parce que j'imagine que vous étiez en train de travailler justement sur cette transplantation de bronche, mais peut-être qu'il y avait des médecins étrangers qui, comme vous, travaillaient sur éventuellement cette transplantation. Quel était le regard des médecins étrangers?
J'ai croisé, là, en congrès dernièrement, un médecin étranger italien qui travaille un peu sur cette problématique. Et il a eu l'élégance de nous féliciter.
Vous parlez d'élégance parce que ce n'est pas forcément le cas?
Pas toujours, non.
L'élégance est venue au bout de 15 ans.
Les retombées sont longues.
Il a attendu qu'il y ait justement un message d'élégance. Enfin bon, la recherche est une longue patience, tout le monde sait ça. Ce que je veux peut-être dire, c'est que cette opération, à mes yeux, c'est un double miracle. Le premier miracle, c'est qu'on dispose, grâce à elle, d'une thérapeutique qui s'applique à beaucoup de malades. Aux malades qui sont atteints de cancer bronchopulmonaire. Or, il faut savoir que le nombre de malades atteints de cancer bronchopulmonaire augmente dans des proportions dramatiques. Pourquoi ? Parce que le tabagisme augmente. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que maintenant, ces cancers atteignent les femmes presque autant que les hommes, alors qu'avant, c'était le privilège, si je puis dire, des hommes et n'atteignaient pas les femmes. Or, c'est quand même un message à délivrer, c'est de dire aux auditeurs qui sont au bout du fil, de grâce, ne fumez pas. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une opération magique qu'il faut penser, de toute façon, j'irai voir le professeur Martineau et donc je serai guéri. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'abord parce qu'il n'y a pas une assurance à 100%. Alors j'ai dit que c'était un double miracle. Le miracle qui m'intéresse le plus, c'est ce qui se passe. Parce que vous mettez un tissu à la place d'un autre tissu qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un vaisseau, je connais bien les vaisseaux, ça n'a rien à voir avec une trachée ou avec une bronche. La bronche, j'aime dire que ce n'est pas un tissu, c'est un organe. La différence, c'est que c'est très compliqué. Un vaisseau, c'est beaucoup plus simple. Et là, il prend un vaisseau, il le met à la place d'un segment de bronche ou de trachée, et ce segment de bronche ou trachée disparaît et se transforme en un organe, c'est-à-dire en une bronche avec des cellules ciliées, des cellules qui sécrètent du mucus. On sait bien que l'appareil bronchique, c'est quelque chose de très compliqué. Et comme il l'a dit, en plus, et ça a été une surprise incroyable, également avec la régénération du cartilage. Donc, ce n'est pas une greffe stricte au sensu, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, moi, avec les bioprothèses. Ça a à voir avec quelque chose de nouveau, de magique, qui est la transformation d'un tissu en un autre tissu sous l'influence de signaux cellulaires.
C'est une découverte, mais est-ce qu'on l'explique, justement, cette transformation de tissu, professeur Martineau ?
Si vous voulez, il y a une régénération de deux parties de ce tissu, c'est-à-dire l'épithélium, c'est la couche la plus interne, celle qui est en contact avec l'air. Là, on l'explique très bien, puisqu'en fait, la régénération se fait à partir des berges de la trachée ou des bronches. Donc, il y a une réparation ad intégrum. Par contre, pour la partie qui est la plus profonde, le cartilage, là, on a encore beaucoup de travaux en cours. Et on pense, je pense le prouver prochainement, que la régénération de cartilage se fait à partir de cellules souches de l'individu lui-même qui sont attirés par l'intermédiaire de signaux et de la réaction inflammatoire. Et ce que vous disiez toujours, Monsieur Carpentier, dans les réunions du laboratoire, je suis sûr que cette histoire d'inflammation qui a lieu pendant le premier mois est capitale pour finalement régénérer. Et c'est probablement ça qui attire, c'est des signaux qui vont attirer les cellules souches qui vont régénérer le cartilage.
Alors aujourd'hui, comment va votre patient, professeur Martineau ?
Alors le patient qui, il faut le dire quand même, je pense qu'il le sait très bien, hein, qui était au moment où l'a vu condamné, est aujourd'hui en vie, il est à domicile. Alors bien sûr, il a un suivi indispensable, comme tout malade qui a eu un cancer du poumon. Quand on voit le cancer qu'il avait, l'importance de la tumeur, d'ailleurs il avait été adressé au début pour un traitement quasiment palliatif, hein, de radio et chimiothérapie. Hein. Donc, les médecins qu'il avait adressés au début, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il serait encore là 2 ans après et qu'on l'ait opéré. Donc, pour nous, c'est une satisfaction qui est énorme.
Et vous avez observé une stabilisation, une régression de la tumeur ou des tumeurs ?
La tumeur, elle a été enlevée en totalité au départ. Hein. Donc, maintenant, il est suivi comme finalement tous les malades qui ont eu ce type d'intervention d'exérèse d'un cancer du poumon.
Mais les métastases ne se sont pas développées sur d'autres organes pour l'instant ?
Pour l'instant, il n'a pas eu de métastases.
Alors, vous officiez tous les deux à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et parallèlement vous menez des recherches. Est-ce facile de mener les deux de front ? Parce que j'imagine que ça nécessite beaucoup de travail. Est-ce que vous faites des sacrifices, professeur Carpentier ?
C'est nécessaire. C'est pas seulement facile, c'est pas facile. C'est difficile, mais c'est nécessaire parce que c'est comme ça que se fait le progrès scientifique. Lorsque vous êtes médecin praticien, même dans les hôpitaux, vous êtes de temps à autre confronté à des problèmes qui n'ont pas encore trouvé de solution. Et c'est là que la recherche intervient. Quand vous avez identifié un problème qui n'a pas encore été résolu, c'est là que le praticien doit se transformer en chercheur. Alors ça nécessite 2 conditions. Premièrement, qu'il ait la curiosité et la capacité de faire de la recherche. Et deuxièmement, qu'il ait un laboratoire de recherche. Et je dois dire qu'au sein de l'assistance publique, on a pu créer un laboratoire de recherche et qui accueille des jeunes comme le docteur Martineau. Et c'est vrai que c'est une grande satisfaction quand on a créé un laboratoire comme ça et qu'on accueille des gens comme lui.
Est-ce que ça nécessite des compétences particulières ? J'imagine que tous les médecins praticiens ne sont pas chercheurs. Donc...
Il faut 3 qualités. La première, c'est la curiosité. Et c'est de dire, devant un problème qui se pose, je suis curieux de trouver une solution. La deuxième, c'est l'imagination. Monsieur Martineau avait une idée qu'il avait imaginée. Et la troisième, et c'est la plus importante, c'est la persévérance. Parce que là, on est autour d'une table, et moi, je l'ai vu, des nuits successives, lui et son équipe, venir surveiller leurs brebis, traiter leurs brebis avec autant d'attention, même souvent plus, qu'un malade lui-même, ou en tous les cas autant. Et donc ça, c'est les 3 qualités qui font un chercheur. Je répète, la curiosité, l'imagination et la persévérance.
Alors j'imagine que vous serez d'accord avec ça, professeur Martineau, c'est plutôt flatteur.
Je ne peux être que d'accord. Alors pour rebondir sur l'histoire de la persévérance, il nous en a fallu, puisqu'il a fallu au début, donc... finalement combattre tous ceux qui pensaient que ça ne marcherait pas. Il a fallu, devant l'évidence que ça fonctionnait, combattre encore des réticences pour la publication des articles. Et c'est là que M. Carpentier a été la personne clé, puisque avec son aura internationale, il nous a permis de franchir ces barrières.
Pourquoi les articles ne pouvaient-ils pas être publiés? Quel était le frein?
Parce que c'est quelque chose de très commun en matière de recherche. On commence par leur dire, c'est pas vrai, ce que vous racontez, c'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est pas de vous. Et si c'est de vous, c'est pas important. C'est Charles Nicolle qui a fait cette déclaration de la recherche, des obstacles qui se dressent sur la recherche. Et là, on les a tous vécus. Et c'est là que le patron du laboratoire a un rôle très important à jouer. C'est de dire aux chercheurs, continuez votre sillon, n'écoutez pas ce qui se passe dehors. Et puis, la persévérance, un jour, paye.
Donc la persévérance également dans la publication des articles et puis persévérance également dans d'autres domaines.
Pour franchir toutes ces étapes et puis arriver au jour finalement à l'application clinique, en sachant qu'il va nous falloir encore de la persévérance, puisque je ne doute pas qu'on aura encore des gens qui vont dire oui, il va falloir encore prouver beaucoup de choses, puisque là on a une étape très importante qui va démarrer, c'est-à-dire que là c'est un cas. Et maintenant, on va avoir une évaluation sur 20 à 30 patients.
Mais j'imagine que les portes vont s'ouvrir beaucoup plus facilement qu'elles ne s'ouvraient jusqu'à présent. Non, pas spécialement.
Oui, si. L'ambiance a complètement changé. Donc, moi, je suis très optimiste.
Vous êtes confiant.
Je veux dire que cette réussite, j'ai utilisé le mot miracle, mais c'est vrai que c'est spectaculaire. Jusqu'à présent, c'était toujours un échec. C'était incroyable, je l'ai dit au début. Et là, c'est un succès. Alors, on me dit, mais ça n'est qu'un cas. Oui, ça n'est qu'un cas. Mais pour quelqu'un qui a l'expérience, ce cas est absolument fondamental. Et c'est un témoignage que je suis sûr que les autres cas seront des réussites. Pourquoi ? Parce que c'est une opération biologique qui dépend plus du chirurgien. Au départ, c'est une opération chirurgicale. Mais après, c'est ça qui est extraordinaire. C'est cette transformation, cette régénération d'une trachée à partir d'un vaisseau.
Alors, dernière question, puis nous arrivons au terme de notre émission. Qu'est-ce que vous ferez ensuite, professeur Martineau? Est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres recherches, maintenant que vous avez mené à bien cette transplantation de bronches? Est-ce que vous cherchez à faire d'autres transplantations?
Plein de choses. Il y a encore des problèmes non résolus. Alors, aujourd'hui, on repart sur le programme de transplantation de trachée, parce que là aussi, c'est un domaine très très important, puisqu'il y a des malades et parfois des jeunes. J'ai vu très récemment une patiente qui a 20 ans et qui est condamnée à vivre avec, si vous voulez, une trachéotomie, donc une ouverture dans sa trachée, ce qui est inacceptable. Et puis, pourquoi pas, avec un objectif dans 20 à 30 ans, la régénération pulmonaire. Imaginez qu'un jour, on puisse abandonner la nécessité de faire une transplantation de poumons, mais qu'on puisse finalement greffer un poumon régénéré ou des cellules en essayant de stimuler finalement la régénération et l'individu lui-même.
Notamment à travers les cellules souches, j'imagine.
Voilà, c'est une voie de recherche, oui, tout à fait.
Et professeur Carpentier, au sein de votre laboratoire, quelles sont les recherches que vous menez actuellement?
Mon rôle actuel, c'est de faire en sorte que je puisse donner les moyens aux jeunes de finalement réaliser les recherches auxquelles ils rêvent depuis longtemps. Donc ça, c'est mon rôle prioritaire. Ça ne veut pas dire que j'abandonne mes propres idées, mais ça veut dire que je les fais passer au second plan. Alors bon, c'est un secret pour personne que je travaille sur la substitution du cœur lui-même, mais je ne souhaite pas en parler parce que je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Alors nous en reparlerons prochainement quand l'information pourra sortir au grand jour.
J'espère bien.
Merci à tous les deux d'être venus nous rendre visite. Et puis, alors, je vous souhaite bon vent et bonne continuation dans vos opérations et vos recherches à venir. Merci à tous les deux et j'espère à bientôt. Au revoir.
Merci à vous.
Merci bien.